Et le journal de la rédaction vous est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'impunité dans l'affaire Benalla, rapporte l'entourage d'Emmanuel Macron. Première prise de parole indirecte, alors qu'hier soir, 5 personnes ont été mises en examen, dont Alexandre Benalla, pour violence en réunion notamment. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera lui auditionné à l'Assemblée ce matin.
Une nouvelle journée de manifestation se prépare au Nicaragua quand la répression se durcit. Le président Daniel Ortega ressemble-t-il en ce sens au vénézuélien Nicolas Maduro ? Nous posons la question.
Et puis nous nous intéresserons aux investissements chinois en Afrique alors que le président Xi Jinping visite le continent. Infrastructures, mines, agriculture, les échanges sont de plus en plus nombreux. 5 mises en examen. Alexandre Benalla, désormais ancien collaborateur de la présidence, mais aussi un employé de La République En Marche et 3 policiers. Cette enquête ne fait que commencer et elle va devoir déterminer pourquoi le jeune collaborateur s'est retrouvé avec un brassard de police dans la manifestation du 1er mai dernier, avant d'interpeller brutalement 2 jeunes manifestants. Il va falloir déterminer aussi qui savait précisément qu'il était là dans ce cortège. D'ici là, les premiers protagonistes sont donc inculpés, Sophie Parmentier.
Alexandre Benalla a été le dernier convoqué devant la juge d'instruction hier et la magistrate l'a d'abord mis en examen pour violence en réunion alors que le jeune collaborateur de l'Élysée avait brutalement interpellé 2 manifestants du 1er mai avec son comparse de La République En Marche, Vincent Crase. Les 2 gros bras ont aussi été mis en examen pour immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insigne réglementé. Benalla n'aurait jamais dû arborer en plein cortège, une radio et un brassard police, lui qui n'est pas policier. Dans le bureau de la juge hier, 3 vrais policiers ont également été mis en examen pour détournement d'images de vidéoprotection. Ces 3 gradés, un commissaire, un commandant et un contrôleur général, n'auraient pas dû transmettre ces images à Benalla la semaine dernière, mais ils ne doivent pas non plus être des lampistes, disent leurs défenseurs, qui assurent que c'est au sommet de la hiérarchie policière qu'on a autorisé Benalla à avoir tant de passe-droits.
Le sommet de la hiérarchie policière comprenait notamment le ministre de l'Intérieur qui a été mis au courant début mai de cet incident. Gérard Collomb est d'ailleurs auditionné ce matin par la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Une audience publique que va suivre de près David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Le ministre de l'Intérieur, c'est le chef. Et on attend du chef qu'il dise la vérité, qu'il s'exprime, qu'il lève des ambiguïtés et des doutes et qu'il dise toute la vérité, puisqu'il y a un problème majeur qui concerne tous les policiers aujourd'hui, c'est que leur image a été ternie par des comportements inacceptables. Quand ce sont des comportements commis par des policiers, ils sont assumés, ils sont sanctionnés sévèrement. Il faudra que ce soit le cas pour Monsieur Benalla, mais il faudra aussi que ce soit l'occasion pour une enquête, qu'elle soit parlementaire ou judiciaire, d'établir les responsabilités de ceux qui ont donné à Monsieur Benalla autant de places dans des services d'ordre où ils n'auraient rien eu à faire. Aujourd'hui, nous avons 3 policiers sanctionnés. Ils sont mis en examen, ils vont rendre des comptes. Mais on sait parfaitement, avec un peu de recul, que ça n'est pas la cause de la présence ni de la raison de la venue de Monsieur Benalla dans les services d'ordre. Et c'est ce qu'on attend du ministre, c'est qu'il fasse la part de vérité et qu'il trouve les responsabilités complètes sur ce sujet.
Gérard Collomb est donc attendu ce matin à partir de 10h devant la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Il ira ensuite demain devant le Sénat. Et avant cela, aujourd'hui encore dans l'après-midi, devant l'Assemblée nationale, c'est le préfet de police Michel Delpuech qui sera auditionné. Ajoutons qu'Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé directement sur le sujet depuis jeudi dernier. Hier soir, c'est l'un de ses proches dans l'entourage du chef de l'État qui a expliqué qu'Emmanuel Macron jugeait inacceptable le comportement d'Alexandre Benalla. Il promet qu'il n'y aura pas d'impunité. Cette affaire Benalla a par ailleurs interrompu tous les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée hier, dimanche. Si la réforme constitutionnelle est reportée à plus tard, le projet de loi Avenir professionnel, lui, doit arriver en dernière lecture en fin d'après-midi à l'Assemblée. Jusque-là, il n'a pas été déprogrammé en tout cas. Les députés de la majorité devraient donc adopter notamment le système d'un bonus malus malus pour l'abus de contrat à durée déterminée de CDD. Le gouvernement a déjà prévenu toutefois qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage se fera à la rentrée. De quoi refroidir opposition et partenaires sociaux. La ministre du Travail qui porte ce projet, Muriel Pénicaud, sera l'invitée des Matins d'été de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure. Il n'avait plus mis le pied en Europe depuis la fin des années 90. Après 19 ans en Indonésie, le français Michael Blanc est arrivé à Genève hier. Il avait été arrêté en 99 pour trafic de stupéfiants, échappant de peu à la peine de mort et niant toujours les faits qui lui étaient reprochés. Aujourd'hui âgé de 45 ans, Michael Blanc redémarre donc une nouvelle vie, Jérémy Lanche.
Michael va bien, c'est ce qu'assure son oncle Alfredo Descalzi. Attendu par plusieurs caméras de télévision à l'aéroport, Michael Blanc a finalement retrouvé les siens à l'abri des regards. Direction Genève, dans un endroit tenu secret pour reprendre pied selon ses proches. Il rejoindra ensuite la maison de son père à Faucigny, petite commune de Haute-Savoie à 20 minutes de la Suisse. La suite, Michael Blanc ne semble pas encore la connaître. À l'époque de son arrestation, cet ancien cuisinier s'imaginait moniteur de plongée à Bali. Pendant sa liberté conditionnelle, il a travaillé dans un restaurant et a passé un certificat d'art graphique. Sa famille dit déjà plancher avec lui sur son avenir. Thierry Ardisson, qui a beaucoup fait pour la médiatisation de l'affaire au début des années 2000, pense déjà l'inviter dans son émission « Salut les terriens ». Si je peux l'aider, a dit l'animateur, ce sera avec plaisir.
Il est 7h06 sur France Culture. Au Nicaragua, les opposants au président Daniel Ortega prévoient de manifester à nouveau ce lundi.
Oui, pour réclamer la libération des personnes détenues, pour condamner aussi la mort de plus de 280 personnes ces trois derniers mois lors de la contestation. Le pouvoir et le président Daniel Ortega assimilent toujours ses opposants, ses manifestants, à des putschistes. Ils restent sourds à leurs revendications. Une tactique que certains comparent déjà à celle du président voisin, le vénézuélien Nicolas Maduro. Analyse ce matin de Kevin Partenay, membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris.
Au regard du durcissement du régime, de sa surdité par rapport aux revendications et puis la violence mise en œuvre, notamment donc les paramilitaires, c'est des aspects qui sont relativement similaires. Néanmoins, les conditions socio-économiques sont différentes et on le voit très nettement aujourd'hui. C'est un des sujets justement très d'actualité, c'est que beaucoup des coopérants internationaux sont en train de se désengager et le Nicaragua est un pays qui, peut-être à contrario du Venezuela, dépend encore beaucoup de ressources extérieures et ce levier-là peut engendrer justement des inflexions dans la nature et la dynamique de la crise. Ce qui est radicalement différent pour le Venezuela, dont on connaît tous les capacités économiques liées aux réserves donc pétrolières et qui pour le coup là change la nature de cette crise et les différents leviers qui peuvent être mobilisés pour la résoudre.
Kevin Partenay avec Nabila Hamel. Ils ne sont pas 800 mais 422. 422 casques blancs syriens ont été évacués cette nuit par Israël vers la Jordanie. Ces secouristes volontaires en Syrie, avec leurs familles, semblaient jusque-là pris au piège face à l'offensive du régime de Bachar el-Assad. Ils doivent ensuite être accueillis par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada. La Syrie frappée cette nuit encore par Israël, justement après cette évacuation, c'est ce que rapporte en tout cas la télévision d'État syrienne. Il n'y aurait aucun dégât matériel. La fin du sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine. Dans leur communiqué final, les 20 pays les plus industrialisés de la planète se disent inquiets de la croissance à court et moyen terme à cause de l'augmentation des tensions commerciales et géopolitiques. Autre sommet qui s'ouvre celui-ci demain à Johannesburg en Afrique du Sud. Réunion des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. En amont de ce sommet, le président Xi Jinping effectue une tournée africaine qui passe notamment par le Sénégal et le Rwanda. Car c'est notable, l'Afrique est au cœur de la stratégie d'expansion commerciale de Pékin, Christian Chesneau.
Depuis 15 ans, c'est une razzia chinoise en Afrique. Tous les secteurs économiques intéressent Pékin, les infrastructures, les mines, l'agriculture, l'industrie. La Chine a compris avant tout le monde que le continent africain était un immense marché émergent. Peu regardant sur la question des droits de l'homme, l'Empire du Milieu est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique, explique le journaliste Antoine Glaser.
Dans tout ce qui est infrastructure, manufacture, maintenant, ce sont vraiment les Chinois. Et c'est sur l'ensemble des pays du continent. Ils ont choisi des pays comme l'Éthiopie pour installer des immenses manufactures. C'est une façon pour eux pour rentrer sur le marché européen. Et dans tout ce qui est infrastructure, ils sont totalement imbattables.
Pékin investit aussi sur les hommes. Les instituts Confucius pour apprendre le chinois ont poussé comme des champignons, autant de vecteurs d'influence de la Chine sur le continent africain, poursuit Antoine Glaser.
Il y a énormément maintenant d'étudiants africains qui vont dans les universités chinoises. Ça veut dire qu'on est passé vraiment, effectivement, d'une sorte de présence économique multi-secteur et sur l'ensemble du continent à une diplomatie d'influence, une diplomatie politique extrêmement active, beaucoup plus active que ce qu'on peut imaginer encore.
Ce n'est pas un hasard si les nouvelles routes de la soie, chères au président Xi Jinping, passent aussi par l'Afrique, via Djibouti, le Soudan et l'Égypte.
Un lundi ensoleillé et des températures en hausse, voilà ce que prévoit Météo France pour ce lundi, en début de semaine donc. 21 degrés déjà ce matin à Brest, 25 à Lille, Paris, Bordeaux, 29 à Perpignan dans la matinée.
Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.